Samedi, le lieu unique. La science de Raon. Simon Bréant.
Bonjour, bienvenue. Merci de venir écouter cette conférence sur la science de Raon. Je suis Simon Bréant, je suis un enseignant-chercheur. Vous verrez que ça, c'est un petit écho dans ce que je vais dire tout à l'heure. Donc je travaille sur la science-fiction française initialement, et plutôt la littérature de science-fiction française que la bande dessinée. Donc dans le cas de Raon, si j'en parle, c'est aussi en tant que lecteur, hein, et en tant que, voilà, que personne ayant grandi avec Raon en partie. Et donc si je peux commencer par ce petit tour d'horizon, est-ce que tout le monde ici est lecteur de Raon ou pas forcément? Est-ce que quelqu'un ne sait pas qui est Raon? Voilà. Bon, a priori, si on vient, vous savez pas exactement. Bon, voilà. Bon, a priori, voilà, forcément, la plupart des gens qui viennent voir ce genre de choses sont déjà au courant, la plupart, mais pas forcément tout le monde. Donc je ferai quelques rappels, mais même si vous avez une bonne idée du personnage, il y a certainement quelques aspects qui vous reviendront en mémoire à travers ce que je vais vous présenter. Alors la première question qui peut se poser, en un sens, c'est pourquoi parler de Raon ? Alors c'est un objet d'étude en soi, c'est un personnage intéressant à plus d'un titre, mais pourquoi en parler dans le cadre des Utopiales ? Dans quelle mesure y a-t-il de la science-fiction dans Raon ? Pourquoi parler de science-fiction ? Un premier élément de réponse pourrait être simplement de mettre en parallèle préhistoire, récits préhistoriques et science-fiction. Un certain nombre de points de convergence ont pu être proposés pour parler des deux sur un plan similaire. D'abord, on peut remarquez que certains auteurs, et pas des moindres, je pense à Rognéné en particulier, ont pratiqué l'écriture des deux, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de présenter une forme de spéculation sur ce qui a pu être, ce qui aurait pu être, ce qui pourrait être. Bon. Et donc il y a une dimension conjecturale de réflexion sur un état extrapolé de la science. On comble les trous, bon, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Évidemment, cette position a ses limites. Hein, on ne peut certainement pas superposer la démarche de l'auteur d'un récit préhistorique et la démarche d'un récit de science-fiction, mais il y a, disons, des points de proximité, des points de convergence qui sont notables. Ceci étant, dans le cas de la bande dessinée de Raon, le problème qui se pose, c'est que, comme ça a été souvent observé, et mon but n'est pas de le contredire à proprement parler, ce qui est présenté des données de la science préhistorique est relativement fantasmatique. Hein, c'est-à-dire qu'on rencontre dans Raon, on en verra tout à l'heure un exemple, des dinosaures égarés un peu dans cet environnement. On rencontre toutes sortes de situations qui correspondent d'assez loin aux données même de la science de l'époque de l'écriture, hein, en termes de préhistoire. Et par ailleurs, s'il y a parmi vous des enseignants qui souhaiteraient utiliser Raon pour parler de la préhistoire à leurs élèves, eh bien, vous seriez évidemment un petit peu ennuyé de voir qu'un certain nombre de représentations qui sont dans cette bande dessinée ne correspondent que de très loin aux perspectives actuellement adoptées sur l'étude des préhistoriques. Donc ce n'est pas en tant que récit scientifique que, me semble-t-il, enfin, ou pseudo-parascientifique, qu'il est intéressant de parler de Raon en priorité. Si ici j'ai proposé cette conférence, c'est parce que la démarche même de Raon en tant que personnage est une démarche qui est une démarche qui démontre l'idée d'une certaine méthode scientifique. Méthode scientifique qui situe Raon dans un cadre qui est celui de l'histoire secrète, c'est-à-dire l'histoire secrète des sciences. Et si on avait à tel moment, autour de ce personnage, découvert telle ou telle chose. Donc il y a un effet d'histoire secrète des sciences autour de ce personnage qui est désigné par une belle expression de Léonard de Vinci des âges farouches, hein, les âges farouches étant l'expression par laquelle la préhistoire dans un cadre, enfin la préhistoire romancée, romanesque, est présentée par les auteurs. Donc c'est le fils des âges farouches, l'enfant des âges farouches, je crois, dans le générique du dessin animé. Mais donc on a dans cette perspective l'idée de la découverte, de la démarche scientifique qui situe, et là on est dans le, non pas dans la recréation de la préhistoire, mais qui situe Rahan dans une histoire des sciences conjecturales. Et si c'était possible, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique? Alors, le personnage de Rahan est né dans Pif, et ça n'est pas anodin. Pif, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, et puis pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont fréquenté, même s'il y a une itération actuelle, mais qui est un petit peu éloignée tout de même, Pif est un journal, enfin au départ un supplément du journal Vaillant, publication inféodée, enfin associée au Parti communiste français, qui présente toute une série d'histoires dont les caractéristiques communes sont qu'elles sont positives, qu'elles donnent des exemples d'un humanisme, j'y reviendrai, d'un humanisme universaliste, hein, c'est-à-dire une façon de poser un rapport à l'humanité qui est un rapport de progrès essentiellement scientifique, mais aussi social, donc avec l'idée que, eh bien, il s'agit de non pas spécifiquement de redresser des torts, mais d'améliorer la situation des individus. Alors, dans un cadre, transposé ici dans un cadre, qui est un cadre préhistorique. La création de ce héros n'est pourtant pas une création de commande, c'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas penser que Rahan est simplement la transposition d'un cahier des charges qui aurait été celui de Pif ou de Vaillant. C'est une création autonome dont, d'après tous les éléments qu'on a pu avoir, d'autant plus que Pif même, même si les auteurs qui y travaillent sont souvent des auteurs qui ont une sensibilité de gauche, voire d'extrême gauche, Pif dispose, par rapport à son donneur d'ordre théorique, d'une très grande liberté éditoriale, d'après tous les témoignages qui ont pu être donnés. Et donc, cette création est au départ une création dont le but est simplement d'apporter un nouveau héros, une itération originale. Il y a très peu de personnages dans la bande dessinée, en particulier française, mais très peu de personnages situés dans la préhistoire. Et donc l'idée, c'est aussi de trouver un concept original. Et de ce point de vue-là, Roger Lécureux, Roger Lécureux qui se trouve ici, a au départ posé l'idée d'un personnage qui, de cette manière-là, aurait un rapport à la science et un rapport aux peuplades de qui l'entoure. Et c'est André Chéret qui lui a donné forme. André Chéret, qui a été choisi par Roger Lécureux, notamment parce que, eh bien, il avait un trait extrêmement cinétique, une capacité à représenter la faune et la flore, enfin la faune surtout, de façon extrêmement dynamique, et que, d'une manière générale, eh bien, c'est ce qu'il, d'ailleurs, c'est un des charmes, me semble-t-il, de la bande dessinée de Rahan. Il y a une grande puissance de dynamisme dans la plupart des dessins, qui est quelque chose qui tranche, en l'occurrence, avec la production contemporaine. Alors, je précise que pour l'anecdote plutôt, que Roger Lécureux, en parallèle, enfin avant cela et en parallèle, était aussi le scénariste des Pionniers de l'Espérance, donc une des premières bandes dessinées, voire la première bande dessinée française de science-fiction, dont le principe était là, peut-être encore plus clairement que pour Rahan, d'affirmer un idéal universel humaniste avec toute une série de personnages dont les aventures leur permettaient de régler toutes sortes de problèmes scientifiques et surtout sociopolitiques. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est, encore une fois, que Rahan par rapport à Pif ? Une dernière précision avant d'entrer dans la question de Rahan et sa science. Rahan est un personnage qui a acquis une dimension emblématique très forte dans la publication même de Pif, ce qui a eu pour effet, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, notamment qu'il a fait ça a produit de nombreuses rééditions, de nombreuses republications de ces récits, avec une autonomisation partielle, hein, c'est-à-dire que, pour ceux et celles qui ont lu Rahan, vous ne l'avez peut-être pas nécessairement lu dans Pif, indépendamment des rééditions qu'il y a eu aux éditions Soleil, qui sont une intégrale précieuse, il y a eu avant cela tout un processus sériel de en librairie et en magasin de journaux, de publications, de recueils, de récits, de toutes les époques en fait, de Rahan. Et donc, c'est un personnage qui a une existence très forte en dehors même du journal qui lui a donné naissance. Mais, et pour donner un dernier élément important sur le personnage, enfin important, notable sur le personnage, c'est aussi une des grandes sources des gadgets de Pif. Et je ne vais pas ici m'étendre sur la question des gadgets de Pif à proprement parler, qui sont propres au journal, mais ce qui est remarquable, c'est dans cette logique qui était d'ajouter un gadget qui donnait l'occasion de faire un peu comme son héros, en l'occurrence pour Rahan, hein, de reproduire ou de s'assimiler des caractéristiques de Rahan, eh bien, on est dans un de ces cas qu'on peut appeler la logique de la transfiction, donc l'idée de du dépassement de la fiction, c'est-à-dire de la présence de la fiction dans le réel. C'est-à-dire que le coutelas de Rahan, qui est emblématique, ou son collier de griffes, n'est pas seulement, dans cette perspective, un élément de la fiction, c'est aussi quelque chose que chaque enfant était susceptible de s'approprier. Donc il y avait du coup un attachement particulier à la figure de Rahan dans cette perspective. Alors, dans quelle mesure y a-t-il dans la démarche de Rahan une démarche qui est une démarche scientifique? Qu'est-ce que ça peut signifier et qu'est-ce que ça reflète pour nous? Alors, Rahan, c'est j'écris une inspiration pour la jeunesse, c'est-à-dire que c'est un modèle. Hein. Rahan, je l'ai déjà dit, dans le cadre qui est celui de Pif, on peut difficilement envisager un anti-héros, même s'il faut se souvenir que Pif a été le premier en France à publier Corto Maltese, qui est un héros plus gris, si j'ose dire. Mais donc Rahan est un modèle, potentiellement. Modèle de quoi ? C'est un modèle qui s'oppose, d'une certaine façon, à un contre-modèle qui serait celui de Tarzan. Rahan n'est pas un Tarzan des âges farouches. Ce n'est pas même s'il partage beaucoup de caractéristiques, sa blondeur, en l'occurrence, est due au fait qu'il ne fallait pas faire un brun, sinon on aurait eu l'impression de voir Tarzan. C'était une des logiques de la création du personnage. Donc ce n'est pas un Tarzan, dans la mesure où Tarzan résout la quasi-totalité de ses problèmes par la force brute et par l'association avec des animaux. Il est éventuellement rusé, bien sûr, mais Tarzan n'est clairement pas un inventeur. La logique de Rahan est clairement dans le domaine humain. Lorsqu'il y a des relations de Rahan avec des animaux, même s'il y a des reconnaissances d'une certaine intelligence animale, et même s'il y a clairement de sa part un respect pour les animaux dans le cadre de la logique de chasse de la préhistoire, prêtée à la préhistoire, eh bien, il ne s'appuie pas sur les animaux, voire ce sont plutôt ses ennemis qui, d'une manière ou d'une autre, vont utiliser une connaissance des animaux contre leurs concitoyens pour, par exemple, simuler de la sorcellerie, simuler un contrôle mystique. Donc, il y a une figure qui est clairement mise à distance par rapport à Rahan, qui est celle de Tarzan. Rahan, malgré sa musculature, malgré son dynamisme et malgré son efficacité au combat, n'est pas du tout ni un tueur, ni un très grand guerrier. Il est bon, mais il est régulièrement battu en combat singulier par diverses brutes qui existent. Deux figures auxquelles on peut le comparer, que j'ai indiquées ici entre crochets, sont les figures de Lancelot et les figures d'Ulysse. Lancelot, que ici j'associe à la logique de l'humanisme universaliste, c'est-à-dire que c'est le chevalier errant qui va de groupe en groupe pour résoudre des problèmes. Seulement, il ne le fait pas, encore une fois, par la force brute, mais il le fait par l'analyse de la situation. Et cette logique le tire du côté de personnages qui sont des personnages rusés, de type Ulysse, c'est-à-dire de la même manière, le héros errant qui, de situation en situation, s'en tire parce qu'il est intelligent. Mais il n'est ni Lancelot ni Ulysse. C'est-à-dire que, et en particulier, j'ai déjà exprimé pour Lancelot, mais en particulier dans le cas d'Ulysse, ou de tous les personnages de rusés qui peuvent exister, Rahan a une différence fondamentale qui est qu'il n'utilise pas sa ruse pour faire le mal. Il n'utilise pas sa ruse pour faire du tort aux autres. Il le fait éventuellement pour sortir d'une situation. On verra des situations de tromperie. Tout de même, il peut être trompeur, hein, on va en voir. Mais cette représentation est beaucoup plus une représentation qui est tirée vers la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre le principe des choses, le principe du fonctionnement des choses, beaucoup plus que de simplement se tirer d'un mauvais pas en inventant un mensonge, une astuce, un stratagème. Ce n'est pas un héros du stratagème. C'est éventuellement un héros de la réalisation technique pointue qu'il lui faut pour ce qu'il faut, une catapulte, tel ou tel instrument dont il a besoin, mais ce n'est pas un héros du stratagème. Et en fait, c'est comme on le voit dans cette case, qui est l'une des dernières cases de la première bande dessinée mettant en scène Rahan, dans laquelle il est à la recherche du secret du soleil, eh bien, on voit quelle est l'éthique qui va s'instaurer à partir de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, c'est un individu sans clan. Bon. Puisqu'il n'a plus de clan, plus de horde, Rahan sera le fils de tous les clans, de toutes les hordes. Bon. Affirmation d'un universalisme remarquable, et par rapport auquel, d'ailleurs, il se positionnera très souvent dans différents récits, dans lesquels il a besoin, justement, de justifier qu'au-delà de l'appartenance à tel ou tel groupe, eh bien, lui se considère comme ayant une allégeance à un principe supérieur, transcendant, qui est l'humanité. Rahan ira partout, verra tout, apprendra tout. Il révélera aux uns ce que lui auront enseigné les autres. Il n'ajoute pas, il enseignera aussi ce qu'il a appris, mais c'est ce qu'il aura trouvé lui-même, mais c'est ce qui se passe. Et donc, Rahan est une sorte de figure tutélaire des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire l'individu qui va simultanément, enfin du moins considérer comme uni deux démarches, la démarche de la recherche et la démarche de l'enseignement, de la transmission. Rahan ne cherche pas la connaissance ou le travail sur la science, enfin la recherche scientifique, comme un moyen d'accroître sa puissance. Il ne vise pas à devenir une sorte de Batman de la préhistoire, hein. Il ne cherche pas à accumuler les gadgets pour devenir de plus en plus fort, par exemple. La science et la recherche scientifique qui est représentée est toujours accrochée à un enjeu narratif précis de tel ou tel récit. Alors, précisons que lorsque je dis Rahan, je parle de quelque chose qui n'a pas d'homogénéité, hormis dans la réception qu'on a pu en avoir. Quelqu'un qui actuellement lit l'intégrale des histoires de Rahan n'est pas du tout dans la même situation que quelqu'un qui l'a découvert dans les années 70, 80, éventuellement 90. Dans les années, en particulier pendant les années 80, la publication de Rahan est une publication qui mélange toutes sortes de dates. Et on n'a évidemment pas d'indication, ce n'est pas le propos, hein, sur les différentes dates de parution de différents récits. C'est-à-dire que dans un même mois, on peut avoir par une publication, un recueil, accès à toutes sortes d'histoires de plusieurs époques différentes de Rahan. On peut avoir, dans PIF, une aventure qui est une aventure rééditée datant de 5 ans plus tôt, comme on peut avoir la livraison du mois qui intervient. C'est notamment dû au fait que Rahan était tellement populaire qu'il fallait quasiment du Rahan dans toutes les publications de PIF et que le rythme n'était pas forcément présent. Qui plus est, évidemment, dans une logique de publication pour la jeunesse, eh bien, le petit lecteur de 1985 n'est pas forcément le petit lecteur de 1978. Bon. Mais qu'est-ce que ça produit, du coup ? Ça produit l'impression qui a été, par exemple, la mienne, pendant toutes les années 80, enfin toutes, j'étais petit au début, mais pendant une bonne partie des années 80, selon laquelle Rahan s'était effectivement défini, enfin l'histoire de Rahan était définie par l'invention, la recherche, la mise en cause des éléments déjà connus. Or, il y a eu une rupture, enfin, on observe une rupture qui est en partie liée à des conditions éditoriales de publication, en partie sans doute liée à une évolution de la pratique de Roger Lécureux, qui est qu'on est passé de récits qui étaient des récits autonomes en une livraison en général à des récits plus longs. Hein, qu'on pense à la mort de Rahan ou des choses comme ça. Enfin, c'est des récits en plusieurs épisodes, avec du suspense d'un épisode à l'autre, alors que la publication initiale, enfin, les premières occurrences de Rahan, c'est des récits courts qui tiennent en quelques pages où on a l'intégralité de l'intrigue. Et ce changement de modalité a aussi correspondu à un changement de visage de Rahan. C'est-à-dire que Rahan est passé donc de l'inventeur, ce qui est la majorité de ce qu'il présente dans ces récits-là, à l'aventurier. Ce qui veut dire, logiquement, que si vous ouvrez une histoire qui date de entre 1984 et 2000, hein, en gros, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup d'inventions. Il y en a quelques-unes, mais il y a très peu de récits à invention. Alors que c'est un instrument qui intervient souvent auparavant. Donc ça, c'est quand même, enfin, c'est notable au sens où ça veut dire que pour certains, vous pouvez avoir au départ un contact avec Rahan qui n'en fait pas du tout un inventeur. Quelqu'un qui va défendre un certain humanisme, un certain rapport à la connaissance, mais qui ne va pas inventer sur place. Alors, pour finir cette mise en place, j'aimerais revenir maintenant sur la question du rapport à la science-fiction qui peut y avoir dans ces récits. Donc, Rahan, on l'a dit, n'est pas un personnage de science-fiction au sens propre, au sens où il serait extrapolé, spécifique, mais il apparaît quand même, dans le cadre du récit, comme une sorte de surhomme. De surhomme au sens, pour le coup, de la science-fiction, c'est-à-dire l'individu qui, semble-t-il, est vraiment conformé très différemment de ceux qui l'entourent. Et c'est évidemment renforcé par cette blondeur qui lui donne un caractère solaire, qui en fait un héros extrêmement positif, mais qui, à la lecture, a pu apparaître éventuellement comme une marque finalement de racisme, hein, c'est-à-dire dire voilà, regardez, voilà l'Aryen blond qui informe tout le monde. Bon, quelle est cette recréation finalement de la préhistoire où on voit toutes sortes d'hommes bruns trapus et de femmes brunes éventuellement élancées, mais face à un blond qui leur explique tout, sans parler de ce qui se passe lorsqu'il est face à des populations de couleur. À cela, il faut répondre plusieurs choses, qui est que ceux qui enseignent à Rahan dans le premier épisode, les mérites de la connaissance, c'est une peuplade noire, c'est de fait, donc c'est eux qui lui enseignent, et c'est cet héritage qu'il transmet, en fait. Et d'autre part, le Roger Lécureux n'a probablement pas, au départ, une idée particulière sur la question, mais en tout cas, il construit de nombreux récits dans lesquels la blondeur est utilisée par d'autres personnages que Rahan comme un signe de distinction, auquel Rahan lui-même s'oppose. Donc il y a de grosses brutes qui sont blondes dans l'environnement de Rahan. Donc cette logique-là ne fonctionne pas forcément très bien. En revanche, il est un surhomme, de fait, par cette dimension intellectuelle qui lui donne une qualité supplémentaire. On revient au Léonard de Vinci, c'est-à-dire l'idée de la personne qui est capable de voir des choses qui ne sont pas visibles. Mais comment le justifier narrativement ? C'est-à-dire que ce n'est pas, pour prendre l'exemple d'une bande dessinée en parallèle qui existe en parallèle, qui est Léonard Génie, ce n'est pas une sorte de génie universel qui, tout d'un coup, fait « Ah, mais je viens d'imaginer ce que c'est que la boxe » et qui crée la boxe. Bon. Non, Rahan réagit dans les récits à des stimuli. Et il utilise des informations et une démarche, une méthode scientifique, ce qu'on peut appeler une sorte de méthode Rahan. Et alors, avant justement d'engager cette question de la méthode Rahan, je termine en précisant ce que c'est qu'un novum. Et dans quelle mesure y a-t-il un novum ? Le novum, dans la théorie de la science-fiction, c'est ce qui a été proposé par un concept qui a été proposé par Darko Suvin, concept fécond, éventuellement un peu problématique, mais un concept qui pose l'idée qu'au cœur de ce qui se passe dans la science-fiction, il y a une rupture paradigmatique. Quelque chose intervient qui tout d'un coup change complètement le jeu. Si on invente le voyage dans le temps, eh bien, la réalité telle que nous la connaissons n'a plus la même configuration. Évidemment, c'est quelque chose qui simule, enfin qui copie le principe des ruptures paradigmatiques dans le réel. Pensons aux révolutions de type copernicienne, galiléenne, et ainsi de suite. Et donc, ces ruptures conceptuelles sont, dans le cas de Rahan, intégrées à une histoire secrète. Histoire secrète qui fonctionne de façon souterraine, comme « et si c'était ce moment-là qui ?» Et donc, il y a une dimension de mythologie de la préhistoire, une dimension étiologique, une recherche des causes de la chose, c'est-à-dire finalement une façon de poser au sens large la question de comment a-t-on pu en venir, par quel cheminement a-t-on pu en venir à avoir telle ou telle création, tel ou tel instrument. Et notamment, il y a un moment, je n'ai pas dans mes exemples, je le mentionne juste en passant, un moment où Rahan invente le fil à coudre, sachant que cet instrument est évidemment un instrument important dans les éléments de datation de la préhistoire. Et par ailleurs, c'est plutôt souterrain dans cette présentation, mais bon, il incarne, comme on l'a dit, un idéal politique. Mais à noter que, je précise, je n'y reviendrai pas, à noter que Il incarne un idéal politique, mais il n'est à aucun moment en train de poser une réalité qui serait, enfin, un mode d'organisation. C'est pas il n'est pas en train d'expliquer qu'il faut s'organiser de telle ou telle manière, et il respecte très souvent les organisations du moment qu'elles conviennent aux individus. Alors, ici, une assez longue citation qui vient. Alors, je précise, donc, pour ceux que Raon intéresse, il y a eu un volume relativement récent qui s'appelle Raon, le premier grand héros français, qui donne toutes sortes d'articles, toutes sortes d'éclairages passionnants, et dans lesquels, notamment Xavier Mauméjean, qui est sur le festival, et Nicolas Télope, dans Celui qui a tout inventé, passe en revue plusieurs inventions de Raon, et formule ainsi, alors c'est une formule qui est un peu un raccourci, on ne trouvera pas ça à chaque fois, mais c'est une très bonne manière de formuler la chose. Par le plus grand des hasards, le fils des âges farouches fait l'expérience d'un phénomène nouveau, devant lequel il s'étonne. Parce qu'il a l'intuition de son importance, il l'enregistre dans sa mémoire, mais sans pour autant s'y attarder sur le coup. Face à un danger ou un problème à résoudre, le héros réinvestit sa découverte hasardeuse et lui apporte un perfectionnement et une application concrète. Alors, c'est un très bon résumé de cette méthode Raon, c'est-à-dire une méthode sans méthode. C'est-à-dire que la logique de Raon n'est pas de se dire, ce qui serait la logique de l'ingénieur de nos jours, j'ai un problème, j'ai tels éléments de connaissance et tel matériau à ma disposition, voilà comment je vais le résoudre. La construction narrative des récits de Raon fait que la solution se trouve très souvent à l'extérieur de Raon, dans des observations qu'il a pu faire préalablement. Et assez rarement, même si ça arrive, assez rarement en faisant appel à des inventions précédentes. Ça arrive, mais c'est relativement rare. En général, tout est contenu dans le récit court, puisque la logique sérielle veut que, on aborde chaque récit de façon relativement indépendante. Ce qui veut dire que dans le processus de création qu'est celui de Raon, il y a en partie une logique qui est un peu la logique de Sherlock Holmes. C'est-à-dire en partie une logique qui met en jeu une relation au lecteur ou à la lectrice qui, devant la situation, se dit, mais est-ce que ces différentes choses qu'on observe vont servir? Est-ce que le porc-épic qu'on voit ici, ou le hérisson en l'occurrence, qu'il observe, est-ce que ça va avoir un effet ou pas? Bon, sachant que parfois ça n'en a aucun, c'est-à-dire qu'il y a des éléments purement gratuits, purement de représentation de telle ou telle chose. On voit Raon affronter un animal, ça n'a pas forcément d'effet. Ici, il y a un effet, en l'occurrence. Il va utiliser le principe du hérisson pour approcher des fauves sans les blesser, enfin sans les tuer. Et donc il se fait une espèce de logique, d'armure de hérisson pour ce faire. Mais donc, il y a dans cette situation quelque chose qui engage en partie la réflexion du côté du lecteur ou de la lectrice. Dans ce mode de fonctionnement est très très varié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les récits de Raon une façon, c'est formulé de façon suivie, mais il n'y a pas une seule manière de faire. Au contraire, il y a énormément de variations dans tous les différents récits qui interviennent, et pour autant, la logique est un petit peu globalement celle-ci. Alors, dans ce récit-là, le piège à poisson, un des premiers qui montre Raon est encore relativement peu autonome, et c'est le moment en fait où Roger Lécureux pose différentes inventions qui ensuite vont être structurantes pour Raon. C'est-à-dire que Raon n'est pas encore un très bon pêcheur dans ce récit-là, qui est le deuxième, si je me souviens bien, chronologiquement. Mais ensuite, dans la plupart des autres récits, c'est un excellent pêcheur, excellent nageur, tout ce qu'on veut. Bon. La construction de la case et de la compréhension est ici organisée de telle sorte que le lecteur, la lectrice découvre le phénomène et sa résolution simultanément. Enfin, pas simultanément, comme en simulant le regard de Raon. Donc, le récitatif ici pose la situation. Raon n'avait pas tué le moindre gibier depuis qu'il s'était aventuré sur ce territoire sauvage. Il avait faim, très faim. Et donc là, on passe à sauter. L'un de vous finira peut-être par retomber sur la terre ferme. Donc là, on a le regard de Raon et le haut qui intervient ici nous entraîne, en termes de lecture, vers la case suivante. Même si, bien sûr, une lecture globale de la planche fait qu'on voit globalement cette résolution qui intervient là. Et alors, ici, j'ai coupé malheureusement, parce que mon scan était de mauvaise qualité, j'ai coupé malheureusement le récitatif qui intervient ici. Récitatif qui dit en gros que Raon ne comprend pas pourquoi le poisson reste suspendu, et enfin pourquoi il saute, pourquoi il reste suspendu, et il aperçoit une petite grappe de fruits et une petite épine. Cette lecture de l'image, qui est une lecture que nous faisons aussi, c'est-à-dire que voyant le poisson sautant, nous ne comprenons pas forcément ce qui est en train de se produire, cette lecture de l'image est exactement celle que Raon est en train de faire, c'est-à-dire repérer des petits détails dans la case pour comprendre ce qui se passe. Et dans la logique qui suit, dans la construction qui suit, eh bien, Raon, ici, va présenter cette invention. Donc, ils se dévorent entre eux, la chair de celui-ci attira les autres. Élaguant une branchette hérissée d'épines, Raon inventa peut-être ce jour-là le premier hameçon. Le peut-être ce jour-là est une façon de poser cette histoire secrète des sciences dans un cadre, qui est un cadre conjectural, un cadre spéculatif. Peut-être, on n'est pas sûr, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'affirmer que Raon est l'inventeur de l'hameçon. Simplement, il s'agit de poser que cette invention est possible, que le cadre général qui a été présenté, c'est-à-dire observation de la nature et application de cette observation de la nature, est un cadre recevable pour présenter Raon. Et en même temps, il y a cette manière de pointer un jour bien précis, jour qui, pour le coup, est marqué d'une pierre blanche dans un espace qui est un espace sans date, qui est celui de la préhistoire. Donc il y a un jeu ici entre une sorte de réalité ponctuelle de la vie de Raon, un moment d'invention, et un cadre très flou, qui est celui donc, de l'histoire secrète. Et donc, j'ai déjà commenté cette question de la mythologie, j'avance un petit peu. Dans les représentations qui sont données, la méthode Raon est souvent dispersée sur plusieurs épisodes. Et une chose qui est importante, c'est que, important à noter, c'est que il y a quasiment toujours une motivation intradiégétique à la création d'une application technique. C'est-à-dire que Raon ne construit pas pour construire. Il construit parce que il a besoin de l'objet pour une raison ou une autre. Et ici, on a un cas d'une invention, d'une application pratique qui est vous allez le voir, qui a une particularité, qui est qu'on voit la totalité ou presque de la logique de Raon en une seule planche, dans la planche qui suit. Mais il y a quand même eu une préparation, c'est-à-dire que Raon, en voyant son coutelas pour tuer une araignée, creuse l'écorce, fait sortir du ficus un liquide épais et blanchâtre. Donc il lui donne l'impression que l'arbre saigne. Ce saignement de l'arbre crée dans l'histoire en question, donc la chose qui s'étire, crée dans cette histoire une situation de conflit, puisque eh bien, une superstition fait que la peuplade locale considère comme un sacrilège le fait d'avoir blessé l'arbre. Et il est donc fait prisonnier, ce qui lui arrive très souvent. Son coutelas lui est enlevé, ce qui arrive également très souvent. Il parvient à s'échapper, mais sans son coutelas. Que faire ? Le problème qui se pose à lui, c'est comment agir par rapport à cette situation. Or, c'est ici une démarche d'investigation scientifique qui va lui permettre de le faire. Alors, non pas en lui permettant de créer une arme particulière, par exemple, mais là, on a en l'occurrence donc, la démonstration de ce que c'est que la logique de Raon. On a une observation accidentelle. En fait, une partie de la sève du ficus est tombée dans une source d'eau bouillante. Il faut quand même un certain ensemble de circonstances, un peu, voilà, vraiment c'est le hasard. Mais donc ça supergrandit lorsqu'il constate que la boule dans l'eau brûlante se déformait lentement. Bon. Dans le cadre de référence qui est celui de Raon, un homme préhistorique quelconque voit cela, eh bien, normalement, il lève les bras au ciel en disant sacrilège ou il y a un problème, et il s'enfuit. Bon. Raon, lui, observe. Et donc, il utilise un instrument, alors bon, une branche, un instrument d'expérience, il fait une hypothèse ou une interprétation, en l'occurrence. C'est la chaleur qui ramollit le sang des ficus. Et il observe que cette combinaison-là, qui pourtant était parfaitement faisable, vu qu'il est toujours au même endroit, il y a une source d'eau chaude, à côté il y a des ficus, ça aurait pu être observé avant. Mais ça n'a jamais été observé avant, puisque Torga et les siens ignorent de tout ce mystère puisqu'ils n'ont jamais fait saigner les ficus. Donc l'interdit religieux vis-à-vis des arbres empêche la découverte scientifique. Ce rapport à la superstition, j'y reviendrai un peu plus tard. Il fait ensuite une observation contrôlée, donc il n'a pas peur de toucher la chose. Le fils de Crao n'était pas au bout de ses surprises. La chose, maintenant, refroidie, pouvait s'allonger, doubler de longueur. Donc, une observation contrôlée. Et ensuite, on a ici, avec un récitatif qui nous simule graphiquement la force de l'Eureka, hein, avec ces majuscules et ce soulignement vert, hein, mais elle reprenait sa taille dès qu'il cessait de l'étirer. Donc, l'observation, ici, le récitatif, sert à simuler une sorte de commentaire sur l'Eureka qui est en train de se produire. Donc, sachant qu'il y a finalement une différence très forte dans l'usage des récitatifs entre donc, le récitatif et la pensée de Raon. C'est-à-dire que la pensée de Raon, parfois, évoque son rapport à la découverte scientifique, mais... c'est le récitatif qui s'adresse à nous, qui nous indique, par exemple ici, Raon est en train de découvrir quelque chose que vous connaissez bien, vous qui connaissez le principe de l'élastique. Sachant qu'en plus, ce que produit Raon ensuite, c'est eh bien, une sorte de, vous savez, de petite catapulte à élastique qui permet d'envoyer des boulettes, enfin, en l'occurrence, c'est ça que ça me servait par exemple, ou plus exactement le principe du lance-pierre. Et donc, Le jouet, d'ailleurs, n'est pas loin, puisque eh bien, oui, j'avais la petite catapulte de Raon dans les gadgets de Pif. Donc, sachant que l'application diégétique ici, c'est révéler le secret des ficus en échange de son coutelas. C'est-à-dire que le besoin qu'il a de récupérer son coutelas fait une pression en termes d'invention. Il faut qu'il en fasse quelque chose, il faut qu'il y trouve une application pratique, et cette application pratique va lui permettre de récupérer son coutelas, donc c'est une justification dans l'histoire. Alors, dans cette méthode Raon, comme c'était indiqué en cours de route, eh bien, la compréhension se fait en partie à retardement. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs façons de le représenter, mais une des manières les plus évocatrices, me semble-t-il, c'est ce type de choses, c'est-à-dire utiliser des effets de superposition pour représenter un phénomène de mémoire qui, ici, fait appel à une mémoire visuelle du lecteur, de la lectrice. C'est-à-dire que le lecteur et la lectrice revoient exactement l'image, mais dans une configuration différente, de telle sorte que tout d'un coup, le sens de cette image se révèle. Et avec, en plus, ici, de très belles images, me semble-t-il, donc il revit son coutelas au fond de la crevasse, fiché dans la cendre d'os, n'était-ce pas l'origine du phénomène, donc la phosphorescence, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, dans les esprits de la nuit. Et donc, son coutelas a été plongé par accident dans une poudre phosphorescente, il le voit briller dans la nuit, il comprend la source de cette phosphorescence. Et ici, le coutelas lui-même est transparent dans l'œil de Raon. C'est-à-dire qu'ici, la figuration graphique de Chéré sert à représenter la pénétration du regard de Raon par rapport à l'objet lui-même, c'est-à-dire aller non pas au phénomène, mais à la cause du phénomène. De même, ce type de représentation, ici c'est un autre des dessinateurs, c'est une histoire spécifique de Raon sur laquelle je ne m'étends pas, qui fait qu'il n'y a pas que Chéré qui est produit des Raons. Mais donc, ici, on a donc, le bruit, le bambou qui chante, le tom-tam, bon, voilà, donc, produire quelque chose, c'est-à-dire qu'il a donné un nom à un phénomène, tom-tam, c'est-à-dire le fait que des peaux tendues sur des bambous pouvaient permettre de produire des sons. Il l'a entendu parce que la pluie tombait. Il a tapé dessus, il a appelé ça le tom-tam. Évidemment, déformation légère dont le but est de nous dire bon, il n'a quand même pas aussi inventé le nom de l'objet, hein, le même que celui que nous utilisons. Mais c'est quand même un clin d'œil, une connivence. Et avec une présentation de la part du récitatif, de la part de la narration, hein, d'une découverte due au hasard des circonstances, le fils de Crao allait une fois de plus tirer parti. Donc là, il y a inscription de la logique sérielle dans la manifestation exacte là-dessus. Donc il y a, dans cette logique de la compréhension à retardement, une justification dans tous les récits. C'est-à-dire que la science de Rahan n'est pas une science qui jaillit de nulle part, c'est une science qui jaillit de la nécessité et qui jaillit de l'observation qui en est faite, observation qui est en partie, enfin, que nous pouvons reproduire en partie. C'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs, nous voyons les mêmes phénomènes que lui. Une particularité supplémentaire de la logique de Rahan, c'est qu'il n'invente pas uniquement à partir de la nature, dans une logique, alors il faut le dire, hein, qui n'est pas extrêmement, qui n'est pas très fondée scientifiquement en termes de ce qu'on envisage du point de vue des progrès scientifiques préhistoriques. On ne croit plus trop à l'idée selon laquelle on aurait simplement vu des épines et on serait dit tiens, je vais en faire un hameçon. Qu'il y a un peu plus de détours que la simple observation causale depuis la nature. Et une des choses que Rahan manifeste également, c'est sa capacité à raffiner un objet technique et surtout à le détourner de sa fonction, du moins lui changer sa fonction. Ici, on a une sorte de cercueil rituel. Hein, on envoie les morts vers la Grande Bleue en les enfermant dans une sorte de cage, une sorte de cercueil primitif qui ensuite donne lieu à... Donc ça c'est un rituel. On sait fabriquer des cages, mais on s'en sert uniquement pour mettre des morts dedans. Et il a besoin, dans le même épisode, de descendre à des grandes profondeurs en affrontant une sorte de pieuvre gigantesque. C'est une des choses que rencontre Rahan. Et pour ce faire, pour arriver à le faire dans de bonnes conditions, il se fait construire. Donc, il utilise les compétences techniques de la peuplade où il est pour se faire construire une cage, une armature. Évidemment, c'est quelque chose qui ici fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la cage à pointe qu'il a déjà utilisée vis-à-vis des lions. Et là, ça fait partie des relatives difficultés dans la répétition sérielle. Et alors, autre exemple que je trouve encore beaucoup plus frappant, c'est qu'ici, on a l'exemple d'une préparation très progressive de la chose. Dans cette histoire que je vais évoquer un peu plus en détail tout à l'heure, parce que c'est une histoire que je trouve fascinante du point de vue du rapport à la science, qui s'appelle « Le secret des eaux profondes », dans cette histoire, un des enjeux est d'arriver à plonger le plus loin possible. Et Rahan a beau pouvoir en remontrer aux différents héros du Grand Bleu, il ne peut pas descendre, même lui ne peut pas descendre assez loin pour arriver jusqu'au secret des eaux profondes. Et au fur et à mesure, il a des blessures qu'on lui soigne en le nettoyant, en utilisant une gourde, une vessie de porc. Et on s'en sert évidemment aussi pour transporter de l'eau. Donc, il voit à plusieurs reprises cette vessie. Et on nous souligne à ce moment-là, Rahan apprécia une fois de plus l'utilité de la vessie de porc. Et tout d'un coup, son esprit inventif, donc il y a eu on est à 4 pages de différence. Hein. Son esprit inventif, une fois de plus, une association d'idées. Si cette gourde garde l'eau en réserve, pourquoi ne garderait-elle pas l'air ? Bon, avec ici, là encore, le graphisme qui appuie le réca, évidemment. Bon, ça, c'est une technique aussi pour souligner, pour accompagner la compréhension, le moment important de compréhension pour le jeune lecteur, la jeune lectrice. Et donc, il y a de la part de Rahan quelque chose qui est de l'ordre de la pensée latérale. C'est-à-dire qu'il est capable de faire un pas de côté et de regarder le monde, que ce soit le monde naturel ou le monde humain, de telle sorte qu'il peut donner un nouveau sens à ce qu'il perçoit. Et d'une certaine façon, c'est plutôt ça, plutôt que simplement la déduction, c'est plutôt cette capacité à prendre du recul par rapport à ce qu'on observe qui fait partie des éléments transmis par Rahan, qui sont modélisés par Rahan, qui servent de modèle pour les jeunes lecteurs, jeunes lectrices. Et alors, ça va jusqu'à un moment que j'ai toujours beaucoup apprécié dans la série de Rahan, ça va jusqu'à remettre en cause Rahan lui-même. C'est-à-dire que, pour tous ceux qui connaissent bien Rahan, vous savez que régulièrement, pour savoir où il va aller, chevalier errant, au gré du caprice du destin, il fait tourner son coutelas de telle sorte qu'il suive la direction indiquée par son coutelas. Une sorte de boussole aléatoire. Bon. Et dans l'un des récits où ça intervient, qui est un récit dans lequel un volcan se réveille, manque de tuer toute une population, mais qui se trouve sur une île, et il suffit de détruire le pont pour que la lave ne parvienne pas jusqu'à l'île. Bon, c'est plutôt sympathique pour eux, mais ce n'est pas extrêmement crédible, mais ce n'est pas le problème. La question, c'est que ces gens, ils sont obligés de vivre à côté du volcan parce qu'il est très poissonneux. Bon. L'eau est très poissonneuse, mais ils ont besoin de reconstruire leur pont tout le temps. Bon. Et il est bien embêté, hein, il les a aidés, on verra pourquoi tout à l'heure. Il les a aidés, mais bon, il ne sait pas trop quoi faire. Il est obligé de partir et il fait tourner son coutelas. Et regardant tourner son coutelas, il dit, mais... Et si je faisais ça ? Et le coutelas, qui est un objet dans le décor, complètement repris de façon sérielle, tout d'un coup, même le coutelas, même la pratique de Rahan, devient l'occasion de faire une avancée technique. De faire donc un pont, qui va être un pont pivotant, qu'on pourra tranquillement tirer à chaque fois qu'il y aura une éruption. Donc on peut vivre tranquillement à côté du volcan. Bon. Ce type d'invention correspond aussi à un jeu avec les codes qui peuvent intervenir. Alors, évidemment, je me laisse dévorer par le temps, donc on fera plutôt les questions à la fin. Je vous laisse y réfléchir. Je passe à un deuxième point. Qui peut aller un tout petit peu plus vite, je pense, mais qui vaut tout de même d'être raconté aussi, c'est que la question de la méthode Rahan et la question de ce que représente Rahan, ce n'est pas uniquement une façon de pousser, bien sûr, de pousser les jeunes lecteurs, jeunes lectrices à devenir eux-mêmes des scientifiques et appliquer la méthode de déduction à partir de la nature. Bon. C'est aussi, on l'a vu, hein, une réponse à des impératifs intradiégétiques, et donc l'idée que, eh bien, il est possible, grâce à une pensée technique, de dépasser, de surmonter des obstacles et des difficultés de toutes sortes. Et ça donne lieu, dans les récits de Rahan, à une forme d'héroïsation de la science, dans la mesure où, en fait, c'est la mise en place des différentes étapes de la découverte scientifique vont véritablement être mises en valeur, par un cheminement, par différentes difficultés, par différents obstacles. Et cette héroïsation, elle prend la forme notamment de différents essais et échecs. C'est le cas dans cette situation-là. Alors, c'est extrêmement rocambolesque, mais c'est magnifique. Hein. Rahan, qui, entraîné par le courant, juste avant une chute d'eau qu'on voit ici, eh bien, s'échoue sur une île dans laquelle il n'y a à peu près rien à manger. Ça ne va pas du tout. Bon. Heureusement pour lui, ce n'est pas le premier à être tombé sur cette île, puisqu'il y a un vieillard qui est là depuis extrêmement longtemps et qui a survécu parce qu'il a apprivoisé ce petit ptérodactyle-là. Bon. Donc voilà, un de ces exemples de coexistence un peu fantasmatique de différentes époques de la préhistoire. Donc un ptérodactyle qui va pêcher pour lui. C'est ce qui est bien pratique. Rahan a l'idée d'utiliser le ptérodactyle pour franchir la chute et puis partir, finalement. Et on a cette première représentation de l'essai, purement athlétique. C'est c'est pas de la science. Là, c'est vraiment Tarzan, quoi. Je m'agrippe à mon ami le ptérodactyle et hop, je fonce. Bon. Et il est costaud, Rahan. Il n'a pas de problème pour se maintenir. Mais le problème, c'est que les remous causés par la chute déséquilibrent le ptérodactyle. Donc, on a ici, dans un cadre relativement peu réaliste, hein, d'un ptérodactyle et d'un homme préhistorique, on a la prise en compte d'une réalité physique, c'est-à-dire la façon dont on peut envisager ce rapport à la chute d'eau. Alors, en un sens, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ce ptérodactyle pour partir sur le côté et aller sur la rive ? Tout simplement parce que le ptérodactyle descend, en fait. Il est trop lourd, malgré tout, pour lui. Donc, son idée, c'est d'utiliser l'angle de la chute pour descendre. Donc, déjà, il y avait quand même un calcul de sa part, de ce point de vue-là. Et donc, on voit l'échec. Remontre-mont, donc dépêche-toi, le ptérodactyle épuisé, tombé presque à pic. Bon, il trouva cependant la force pour reprendre de la hauteur, bon, ça, heureusement. L'idée était folle, on n'échappe pas au fleuve, tu devras vivre jusqu'ici, jusqu'à la fin de tes jours, après la mort, il te restera Arrak. Bon, le ptérodactyle qui vit un peu plus longtemps que les humains, semble-t-il. Bon, voilà. Donc, comment échapper à cette captivité, comment la construire ? Eh bien, l'observation et les conditions vont conduire, de la part de Rahan, enfin, à un processus de, d'élimination et de comparaison. Il réfléchit, alors il s'est passé un certain temps, Rahan avait songé aux ailes d'Arak et au vent gonflant la grande voile. Donc ça, c'est au tout début, en fait, une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est qu'il a inventé la voile, enfin, ou plus exactement, il a vraiment mis en pratique la voile. Et résultat, il a été emporté tellement vite qu'il n'a pas compris trop ce qui se passait avec cette histoire de chute d'eau. Et donc, il superpose la voile, donc première invention, et le principe des ailes. Donc là, c'est vraiment le Léonard de Vinci, hein, il invente la logique du vol. Hein, et il se laisse emporter par un premier parachute, avec ce moment héroïque, avec cette vue en contre-plongée qui nous montre un Rahan s'élançant cette fois-ci. Vous voyez la différence ici, cette case très fermée, très verticale, qui enferme complètement Rahan dans l'impossibilité de s'échapper, contrairement à cette case-là qui, au contraire, construit la possibilité d'un récit, la possibilité d'une continuation, d'un dépassement. Et donc, cette création-là est un moment d'eureka et de réalisation, mais donc très progressive. C'est-à-dire que finalement, là, il n'y a même pas ici de danger extérieur dû à des humains ou des... C'est uniquement surmonter le phénomène naturel par la science. Et comme vous le voyez ici, la logique est toujours de retrouver des objets qui sont des objets que nous connaissons, des objets maîtrisés. Donc, avec, pour le coup, un effet relativement confortable de la part pour le lecteur ou la lectrice qui va retrouver un objet qu'il connaît. Mais il y a quand même quelques éléments un peu plus magiques, et notamment ici. Donc, la logique ici, c'est... Alors, une des choses que fait très régulièrement Rahan, et là, c'est un peu sa logique, la logique d'Ulysse ou de Lancelot, enfin, on retrouve la logique du héros civilisateur, c'est-à-dire qui, au fur et à mesure de ses découvertes, augmente potentiellement le cercle de la raison. Symboliquement, il élimine toutes sortes de monstres. Dans ces monstres, il y a des sorciers, on les verra plus tard, mais dans le temps qui restera. Mais il y a littéralement des monstres au sens de créatures dépassant l'entendement. Et ici, le problème se pose ici. Alors qu'il s'est réfugié ici, pour une raison que je préciserai ensuite, certains vous le connaissez, il observe un phénomène naturel exceptionnel. Concentration de la foudre sur une colline. Et c'est parce que une lance faite dans une matière étrange, du métal, attire en fait la foudre. Donc il comprend un petit peu la logique de cette chose-là. Il comprend ce qui se passe. Et alors qu'on lui est en train de lui expliquer quiconque essaye de s'en servir finit par être frappé par la foudre, ce qui est quand même pas très pratique. Et donc, ce qui fait que c'est une lance sacrée, une lance problématique, lui, il voit simplement la relation de cause à effet, et de manière assez immédiate, la relation entre cet objet découvert, objet un peu Deus ex machina, hein, pour le coup, et la créature, donc un tyrannosaure, là, autant aller vers les dinosaures un peu intéressants, donc un tyrannosaure sème la terreur dans la région, eh bien, ce lien se fait assez automatiquement, visuellement, puisqu'on associe, me semble-t-il, d'autant plus qu'ils sont de même proportion, enfin de même taille, en changeant les proportions, on associe ce personnage et la figure qui intervient ici. Donc, intuitivement, cette logique de l'association des deux se fait assez vite. Et donc, effectivement, la logique de Rahan va consister à planter la lance sur la tête du tyrannosaure, utiliser les éléments. Bon, donc ici, on est dans quelque chose qui dépasse en grande partie le cadre de ce qui est envisageable pour la préhistoire, le travail du métal d'une manière complètement... une logique de Deus ex machina face à un tyrannosaure. Enfin, on est vraiment dans une zone extrêmement fantasmatique. Mais pour autant, ce qui symboliquement en demeure pour le lecteur et la lectrice, c'est justement cette logique que l'application scientifique peut permettre d'améliorer par la destruction de ce qui est négatif dans le monde, d'améliorer le sort. On parle de récits des années 70-80, nous ne sommes pas dans une logique à ce stade de critique, de rapport à la nature telle qu'on peut l'avoir actuellement. C'est ce qu'on va voir. Rahan n'est quand même pas dans une logique de destruction de la nature, hein, au contraire. ce qui l'empêche pas d'être confronté à cette perspective. Et notamment, Rahan invente la poudre. C'est quand même assez formidable. Il invente la poudre, c'est-à-dire non seulement il observe par des substances qui interviennent, et là il est confronté à un sorcier qu'il accuse de mentir, mais bon, ce sorcier, on lui donne tort. C'est-à-dire que Rahan recueille des poudres différentes, qu'on trouve dans une grotte où il y a souvent des petites explosions. Bon, voilà. Et au départ, il fait une première expérience qui manque, qui rate. Mais il a l'inspiration, il réunit les poudres, il les allume et l'explosion se produit. Et de cette manière-là, il explique les choses. Bon, ça, c'est assez classique. Mais quel est le développement qui intervient? Parce que finalement, ici, la logique de l'histoire n'est pas très forte. Enfin, la pression n'est pas très forte. Il doit juste montrer qu'il a compris ce qui se passe dans ces cavernes. Il invente après ça la dynamite. Des bâtons de bambou qui explosent. Bon, cette dynamite, elle permet différentes choses. On peut aller pêcher la dynamite. On lance ça dans le fleuve. Il y a plein de poissons qui remontent. Là, au moins, on a à manger pour assez longtemps. Bon, c'est une vision de la préhistoire qui pose l'idée qu'à la préhistoire, on vit dans la pénurie, ce qui est plutôt l'inverse. Mais ça correspond à l'état de la science, en l'occurrence. Donc, simultanément, au moment où il le produit, une avalanche se produit. Avalanche qui n'a pas de rapport direct avec ça, c'est vraiment une coïncidence. Et ils sont enterrés. Ils vont mourir, tous ceux qui vivaient dans la grotte là vont mourir dans le ventre de la montagne. Héroïsation, non, les bambous qui tonnent les sauveront. Fuyez, instantanément, il place c'est un expert en démolition instantanée, il place les explosifs au bon endroit et il crée une ouverture et il peut sauver tout le monde. Donc, une brèche, Taïwa et Arik apparurent les premiers, puis les chasseurs, les femmes et les enfants. Donc, on constate qu'il y a quand même une hiérarchie sociale postulée ici, sachant que Arik arrive le premier, Arik c'est le sorcier. Et immédiatement après, que fait ce sorcier? Eh bien, il commence à expliquer que les bambous qui tonnent, ça serait bien pratique pour aller tuer tout le monde, en fait. Hein, donc, il a une arme de destruction massive, autant s'en servir, autant aller tuer tout le monde. Ce à quoi, et c'est la logique. Donc là, on a vu que c'est une science humanitaire au sens où Rahan invente des choses qui servent à mieux chasser, mieux pêcher, à se défendre et ainsi de suite. C'est une science de la protection. Que se passe-t-il lorsque l'idée des bambous est détournée des grandes aspirations de Rahan? Eh bien, dans l'histoire, cet objet-là se trouve rendu impossible. Rahan va faire exploser complètement les cavernes en question de façon à ce qu'on ne puisse plus fabriquer de bambou. Donc c'est vraiment c'est Einstein qui détruit la bombe atomique, hein, Rahan. Et donc cette logique-là est très importante dans le récit de Rahan, c'est-à-dire que il propose une version de la science qui est d'autant plus héroïque que c'est une science qui fonctionne en conscience. Et ce rapport à la conscience de la science, pour faire ce jeu de mots ancien et facile, il est répété ponctuellement et il structure les valeurs, l'association de Rahan à la science. C'est-à-dire, avec ici, on a l'expression, donc là, c'est lorsqu'il a appris à pêcher, vous voyez qu'il a... Il a appris à pêcher. Là, bon, on a un petit moment un peu humoristique. Oh, retiens-le, suis-moi, m'entraîner. Bon, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ceci. Rahan était heureux, heureux. Il avait enseigné quelque chose à ceux qui marchent debout. Il trouvait sa récompense dans leur joie. Bon, c'est quelque chose que tous les enseignants connaissent, bien sûr. C'est-à-dire le plaisir d'offrir. Mais donc, cette logique du plaisir d'offrir, de l'offrande du savoir, c'est quelque chose qui est donc structurant pour Rahan, qui est posé dans la logique même du personnage, c'est-à-dire que cette offrande est gratuite. Il ne se fait pas rémunérer pour ses découvertes. Déjà, c'est la première chose qui intervient. Et d'une certaine façon, assez souvent, mais ça marche quasiment jamais, il se présente aux nouvelles peuplades en disant j'ai des choses à vous apprendre. Et on lui dit assez rapidement tu es un monstre, un sorcier, un être dangereux. Bon, et il est rapidement mis en danger, à supposer qu'il ait pu se présenter, parce que très souvent, comme on l'a vu avec le ficus, la première rencontre, c'est sacrilège immédiatement parce qu'il a marché là où il ne fallait pas. Donc cette structure-là, évidemment, cette structure du malentendu, c'est une structure qui est là pour dynamiser les relations de Rahan assez semblables, mais l'idée étant que, disons, je n'ai pas fait de proportion exacte, mais je dirais qu'au moins 3/4 des rencontres avec des humains se résolvent pacifiquement in fine, et 1/4, on pose plus de problèmes. Et alors, dans cette structuration, on a aussi des contre-modèles. Ici, ce contre-modèle, c'est le récit, vous souvenez, donc le secret des eaux profondes. Mais quel était ce secret qu'il fallait découvrir en allant au plus profond des eaux au péril de sa vie ou de sa santé, hein, puisque Rahan veut ce secret des eaux profondes, mais pas parce qu'il veut le connaître, parce que c'est dangereux d'y aller, qu'il a un instant de survie, mais parce qu'un rituel institué pour les jeunes gens de l'île où il est arrivé fait qu'ils doivent tous plonger pour essayer. Et ceux qui ne se noient pas reviennent sourds, aveugles, estropiés. Donc c'est un rituel absurde. Mais il ne peut pas briser ce rituel s'il ne révèle pas le secret. Or, comment est représenté ce secret? Il est représenté sous une forme mythologique, dans un très beau triptyque qui intervient ici. Donc des chasseurs qui sont arrivés sur une île, qui ont trouvé le secret. La pierre, bon, évidemment avec cette représentation un peu archétypale de la pierre gravée, un peu anachronique bien sûr, hein. C'est pas le premier anachronisme. Et donc la pierre magique, ils l'ont ravie. Ils l'ont ramenée, mais ils ont été pris dans une terrible tempête. La pierre fut engloutie sous les yeux de ceux qui guettaient le retour des anciens. Donc sacrilège mythologique, on rapporte un secret interdit et il est juste à portée de main. Il suffit d'aller juste à côté de l'île. Et donc, un repère fut ancré à l'endroit du naufrage, car notre clan désormais rêvait d'arracher le secret des eaux profondes. Bon. Ce secret des eaux profondes, Rahan va le chercher. Mais que se passe-t-il? Et là, nous sommes associés à la construction de l'image fait que ce secret, alors évidemment, nous le voyons, hein, puisque la logique d'une bande dessinée, c'est qu'on voit toutes les cases en même temps, donc on n'est pas à proprement parler surpris. Et donc, nous ne sommes qu'à moitié surpris par le fait qu'il y ait ceci, mais qu'est-ce qui le fait à ce point-là reculer? Qu'est-ce qui motive son hostilité? Et là, vous voyez qu'il y a une construction de cases qui pose, et d'ailleurs, il pointe du doigt le secret, donc il y a vraiment ici une construction dynamique de l'image qui place Rahan au centre de quelque chose qui est particulièrement expressif dans cette condamnation. Qu'as-tu donc? Et voilà pourquoi tant des vôtres ont sacrifié leurs 20 printemps pour un secret que vous connaissez depuis plusieurs générations. Et ici, le secret du feu, hein, ce secret du feu a été gravé sur cette pierre, il a été redécouvert. Et donc, qu'est-ce qui ici implicitement est condamné comme contre-modèle? L'idée selon laquelle le savoir serait correspondrait à une somme nulle, c'est-à-dire il faut l'arracher aux autres pour l'avoir. Au contraire, le savoir s'augmente au fur et à mesure des échanges, et donc le fait de vouloir voler un secret à quelqu'un d'autre est une aberration. Aberration dont la peuplade locale a payé le prix au fur et à mesure. Pendant des générations. Et donc, évidemment, c'est un contre-modèle général d'un certain rapport à la science, mais évidemment, ce type de figure se trouve très souvent représenté chez Rahan. Et en l'occurrence, le sorcier chez Rahan est une figure extrêmement complexe, que je ne vais pas développer outre mesure l'étude ici aujourd'hui, mais passons un peu en revue les raisons de cette complexité. Le sorcier, commençons par le dire, n'est pas forcément négatif. Il est très souvent négatif, mais il n'est pas toujours négatif. Il y a des bons sorciers, ceux qui, pour une raison ou une autre, utilisent leur savoir de façon positive en enrichissant le savoir des autres. Mais ils sont relativement rares. Rahan lui-même est considéré comme un sorcier à de très nombreuses reprises. Et il y a notamment un épisode dans lequel il est enfermé avec toutes sortes de gens qui, comme Rahan, alors c'est la seule fois qu'on les voit, hein, comme Rahan, ils passent de communauté en communauté à prendre des choses aux autres. Bon, et ceux-là, ils existent dans cette histoire, mais ils existent nulle part ailleurs. Et donc, ils sont enfermés tous ensemble, et à eux tous, enfermés dans cette fosse aux sorciers, ils trouvent le moyen de s'en aller, grâce à Rahan notamment, bien sûr. Mais donc, il y a aussi une façon de condamner le savoir tel que nous le respectons, dans les figures de sorciers qui peuvent, en l'incarnant la figure de sorcier. Et de fait, les sorciers ne sont pas des imbéciles. Ce ne sont pas des êtres superstitieux dans Rahan. Ce sont des êtres qui ne sont pas eux-mêmes guidés par la superstition, qui l'orchestrent, l'organisent et utilisent la science de façon à réduire en esclavage, enfin, ou à obtenir des avantages, en tout cas, de la part de leurs compatriotes. Enfin, et de ce point de vue-là, donc, ils correspondent bien à des sophistes par rapport à un Rahan qui serait la figure du savoir pur et gratuit. Et ceci étant, ils sont aussi très souvent des adversaires physiques, violents, qui cherchent à tuer Raon. Donc il y a vraiment cette opposition entre deux conceptions de la science égoïste à courte vue et la science universaliste de Raon. Donc il y a vraiment cette polarité qui est développée. Ceci étant, Raon lui-même utilise parfois la superstition. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là de naïveté de la part des auteurs. Il utilise la superstition quand il le peut. Ici, vous vous souvenez de la phosphorescence qui intervenait. Eh bien, Raon a observé. Alors, il y a les esprits de la nuit apparaissent comme ceci. Donc, Raon est poursuivi par des brutes qui aiment bien tuer les gens. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ils aiment bien tuer tous ceux qui passent par là. Donc, il est poursuivi. Aucune possibilité de dialogue avec ces brutes, pour le coup. Et il utilise la poudre phosphorescente pour apparaître comme un esprit de la nuit, comme ces individus qui interviennent ici, qui sont des hommes lumière, donc qui avaient essayé de l'aider un peu plus tôt, qu'il avait libéré à un moment donné. Bon. Ici, on ne saurait mieux représenter l'idée de la connaissance éclairant le monde qu'avec ce Raon, sauf que ce n'est pas la connaissance qui éclaire le monde en l'occurrence, c'est la connaissance qui sert à faire peur, sert à effrayer. Et ce mécanisme d'effrayer des peuplades trop violentes, irrécupérables en tout cas pour l'instant, est utilisé dans plusieurs récits. Ce n'est pas le seul moment où ça intervient. C'est parfois le dernier recours en quelque sorte de Raon dans cette logique-là. Donc il y a aussi une variabilité de cette application-là, c'est-à-dire que par moment, je tenais à nuancer cette chose-là, c'est-à-dire que ici la supériorité sur la superstition consiste à utiliser cette superstition. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que fait Raon par rapport aux sorciers, c'est-à-dire qu'il bat les sorciers à leur propre jeu en reprenant les règles qu'ils ont énoncées et en leur disant, mais voilà, bah très bien, j'ai passé l'épreuve, passe-la à ma place, maintenant, puisque j'ai montré que je pouvais survivre à telle ou telle épreuve qui avait été inventée, qui était impossible à survivre pour une raison ou une autre. La logique de Raon, très souvent, pas dans le cas de ce récit en l'occurrence, mais très souvent, est une fois le sorcier mis hors d'état de nuire, qu'il soit mort ou exilé ou autre, de révéler la chose. C'est-à-dire que, autant que possible, Raon désarme la superstition en expliquant ce qui intervient ici. Et en l'occurrence, on a finalement quelque chose qui ressemble bien à cette fameuse loi de Clark, selon laquelle toute science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est-à-dire que c'est ce principe-là, c'est-à-dire utiliser un principe technique à des fins pour créer une illusion de magie. Seulement, donc, Raon la désarme très souvent. Alors, j'arrive au bout de cette présentation. Je vous donne là ici, si ça vous intéresse, quelques références utiles pour interpréter, enfin pour aller plus loin dans la réflexion sur Raon. Donc le premier grand héros français, les Cahiers de la BD, qui doit tout à fait pouvoir encore se trouver. Ceci qui se trouve en ligne assez facilement si vous cherchez le nom de l'auteur. Et cette histoire de mon camarade Vaillant Pif Gadget qui est passionnante à lire. Et je précise aussi ceci qu'on peut trouver en ligne assez facilement, qui est une lecture donc contemporaine, enfin quasi contemporaine, au milieu des années 80, donc qui n'est pas une lecture rétrospective de Raon, dans laquelle le chercheur en sciences sociales prête à Raon une charge idéologique très forte, et finalement, il en fait une analyse qui est très bien documentée, c'est pas du tout une étude à charge idéologique elle-même, mais il en fait une analyse qui finalement ramène à des mécanismes simplificateurs ce que je vous ai exposé, c'est-à-dire la façon dont le progrès scientifique est effectivement chez Raon présenté de façon toujours positive dans la mesure où Raon le manie, où la question des conséquences n'est jamais véritablement envisagée et où finalement, la conscience scientifique qui se fait autour de Raon est souvent mythologisée de diverses manières, ce qui limite effectivement la portée de ce que je peux avoir dit là-dessus, mais il me semble avoir posé, et vous allez me dire ce que vous en pensez, ça va apparaître dans vos questions, ça maintient pour moi l'idée que Raon est une bande dessinée à mettre entre les mains des jeunes enfants, mais voilà. C'est et des adultes s'ils en ont envie. Donc je vais répondre à vos questions s'il y en a. à partir de maintenant.
Merci. J'ai une question sur la blondeur de Rahan. Bon, Rahan est créé, imaginé blond d'emblée, ça je ne le conteste pas. Ma question elle est la suivante, est-ce que les aventures de Rahan paraissent en couleur dès le début? Parce que parmi les intégrales successives publiées ces dernières années, il y a eu une intégrale dite en noir et blanc, donc j'aimerais comprendre quelle est la raison de cette intégrale en noir et blanc. Est-ce que les aventures, si elles paraissent en couleur dès le début, elles sont mises en couleur par Chéret lui-même, ou est-ce qu'il y a un problème sur cette mise en couleur? Voilà, c'est ça ma question.
Alors, on touche à des points d'érudition que je ne maîtrise pas. Alors, peut-être qu'y a-t-il un élément de réponse. Il me semble, pour donner quand même un élément de réponse, il me semble que la parution se fait en couleur, au départ. Je serais peut-être détrompé si vous...
Alors moi, j'ai lu Rahan dans des vieux pifs que ma grand-mère vendait, des vieux pifs des années 70. Et non, ça paraît en noir et blanc au début, tout est en noir et blanc en Big Gadget. Mais par contre, noir et blanc, on voit bien qu'il n'est pas brun. Il a le cheveu blanc.
Mais alors à ce moment-là, j'avoue, c'est une question que je n'ai pas creusée. Et à ce moment-là, la question que je me pose personnellement en écho à ça, c'est comment se fait-il qu'au début, il soit roux plutôt que blond? C'est-à-dire qu'en fait, il est... Alors, vous avez des éléments de réponse, mais très bien. Partagez votre savoir, ça me...
En fait, quand il y a eu des premières intégrales, ça a été remis en couleur après. Et comme souvent, quand ce n'est pas l'auteur qui dirige la mise en couleur, il peut y avoir des erreurs, roux, blond. Ça arrive dans d'autres bandes dessinées aussi, où les couleurs ne sont pas tout à fait respectées d'un personnage à l'autre. En tout cas, il n'était pas brun.
Bon, il faudra que je fasse une petite recherche sur les différentes éditions qui interviennent. Moi, je l'ai toujours lu en couleur, parce que je l'ai lu dans les années 80 et que je ne suis pas allé chercher les pifs anciens, en l'occurrence. Alors, c'est mieux pour l'enregistrement si on utilise le micro.
Alors, ce que je veux dire, c'est mon hypothèse, c'est que les premières aventures qui ont été publiées en noir et blanc sont publiées en couleur dans PIF avant de l'être dans les intégrales. Et effectivement, cette mise en couleur, elle est probablement faite totalement indépendamment de Chéret, parce que lui-même, à ce moment-là, travaille sur les aventures contemporaines et pas sur la reprise des...
Bon,
des
tout ça est une suite d'hypothèses. Oui, oui. En l'occurrence, il y a un site très bien sur PIF, qui est un site qui est d'érudition extrêmement bien fait, dans lequel peut-être que les indications noir et blanc et de mise en couleur permettront de délucider la chose. J'avoue que je n'ai pas creusé la question par rapport à la science du personnage. Oui.
Bonjour, je voulais savoir si du fait que ce soit paru dans PIF et quel gadget, que ça a pu influencer le fait que justement il y ait beaucoup d'inventions dans la bande dessinée, et que si c'était paru dans un magazine sans gadget, peut-être il y aurait eu plus, ça aurait été différent.
Alors il ne semble pas, d'après ce que j'ai pu lire, il ne semble pas qu'il y ait de lien direct entre les deux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la conception même des gadgets était, c'était une activité quasi autonome par rapport à la partie éditoriale, d'ailleurs, c'est une des choses qui est dite, c'est que petit à petit, ça s'est mis à prendre le pas sur les activités éditoriales. Enfin, il y avait puisque le gadget était vu comme l'objet qui attirait plus quasiment que le support de la revue. Donc il y a eu un problème de pouvoir, de dynamique de éditoriale par rapport à ça. Mais la logique de la création ne me semble pas pouvoir être corrélée. Parce qu'en fait, mais là encore, il faudrait que je revoie les époques exactes à partir desquelles les gadgets ont été introduits, les gadgets spécifiques Rahan ont été introduits. Mais en tout cas, les premières créations de Rahan sont très loin de pouvoir donner lieu à des applications. Rahan qui découvre ce que c'est que le soleil et que le soleil tourne autour de la Terre, bon, ça, il n'y a pas d'application. Découvrir qu'on peut pêcher avec un hameçon, là non plus. Donc il y a finalement relativement peu de découvertes de Rahan qui correspondent à des gadgets. Et en fait, mais ils existent. Et c'est plutôt des objets symboliques. Je parlais du coutelas. Le coutelas a été un objet un peu mythique pour les amateurs de PIF. Le coutelas, mais c'est plutôt des objets comme on en trouvait pour d'autres personnages. Donc il y a pas de relation de cause à effet. Et en tout cas, ce qui me semble à peu près établi, c'est que la logique de l'écureuil en créant le personnage n'était pas de créer un personnage à gadget. Ce qui me semble le plus important de ce point de vue-là, il y avait vraiment pas de, et c'était pas une logique de commande. Enfin. De ce que j'ai pu déterminer. Voilà, c'est. Non, non, c'est. Et il n'y avait aucun lien entre le. Enfin, quasiment aucun lien entre l'objet donné et le contenu. C'est peut-être moins vrai pour les intégrales qui jouaient un peu d'éléments symboliques.
Je suis un passionné de Raon, tout comme vous. Vous venez de faire la démonstration que Raon était un puits de science dans la majeure partie et qu'il évoluait au cours du temps et qu'il emmagasinait beaucoup de données. Comment vous expliquez qu'il s'en remette systématiquement à la fin des épisodes au hasard à faire tourner son coutelas ?
Ah, alors, la réponse là, elle est extrêmement, finalement extrêmement simple. Il y aurait une réponse très simple à faire, qui est la logique sérielle, c'est-à-dire la logique de la déconnexion des épisodes. Alors, ils ne sont pas tous complètement déconnectés. Il y a des liaisons, parfois. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'en plus, je ne me souviens plus exactement des épisodes, mais il y a parfois des liaisons. C'est-à-dire que, clairement, Raon veut aller à tel endroit, et au début de l'histoire suivante, si on les met dans l'ordre, eh bien, ça fonctionne. Mais cette logique-là, elle est symboliquement, c'est une façon aussi de rappeler le rapport à l'espace, qui est celui de cette préhistoire complètement fantasmatique. Et c'est aussi une façon de justifier, par un prétexte en fait, mais de justifier le fait que d'une histoire à une autre, d'une semaine à une autre, ben, on soit au milieu de l'océan, ou au milieu de la jungle, au milieu d'un peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, il va où c'est pas le Maine. Bon. Et de fait, c'est quelque chose par contre qui effectivement, alors, et c'est peut-être ce qui est contenu dans votre question aussi, c'est que finalement, ça semble introduire une part d'irrationnel. C'est-à-dire, comment se fait-il, effectivement, donc, si on met de côté la logique sérielle, comment se fait-il que eh bien, ce personnage qui paraît rationnel à tout point de vue, qui refuse la superstition, suivre ce principe pour son coutelas, avec une difficulté supplémentaire qui est que régulièrement son coutelas lui dit d'aller à des endroits, il n'a pas envie d'y aller. Comment ça, le désert, mais j'ai pas du tout envie d'aller par là. Donc il y a des choses où parfois il arrive à la fin de telle ou telle histoire que eh bien, le coutelas commence à tourner, puis il lui présente le territoire qu'il vient de quitter qui est super dangereux. Il n'a pas du tout envie de rebrousser chemin, Raon. Dans ce cas-là, on s'en sort par une pirouette, puisque il y a un petit tour de plus du coutelas qui fait que finalement ça va, et puis il lève les bras au ciel, ce genre d'image en tête. Bon. Pourquoi ? Eh bien, il me semble ici que s'il y avait une justification à donner, ce serait aussi pour poser le fait que malgré ce que j'ai pu dire sur la science de Raon, Raon n'est pas un homme de la Renaissance. Ça n'est pas un Descartes ou qui serait purement guidé par la raison. Et en un sens, c'est sa manière à lui de se libérer de toute règle et de s'imposer une règle extérieure. C'est-à-dire que je le relierai à son universalisme. C'est-à-dire l'idée que ça n'est pas son intentionnalité qui va le faire aller d'un endroit à un autre, c'est le hasard qui est un moyen d'arriver à une égalité parfaite. Bon, voilà, mais c'est quand même un instrument sériel avant tout. Bon.
Moi, j'avais un témoignage. J'ai lu PIF et relu étant gamin. Et si mon goût prononcé pour les sciences expérimentales vient de là, j'en suis certain. Et ma femme, c'est pareil. Voilà. On est tous les deux devenus profs de sciences après avoir lu ça. Et, voilà, et pas que pour des mecs, pour des filles aussi à l'époque. C'était extraordinaire de pouvoir voir donc ces liens de cause à effet, d'observation, de mise en pratique, de bricolage pour la science. Et pour, et c'est, enfin, je suis sûr qu'on est de très, très, très nombreux dans ce cas-là.
Alors, ça me semble, merci beaucoup pour ce témoignage, ça me semble tout à fait effectivement correspondre à un certain nombre d'éléments qui peuvent... Voilà, les éléments que j'ai pu recueillir là-dessus, je n'ai pas fait d'études sur cette question, hein, mais effectivement, l'idée qu'il y ait une symbolique extrêmement positive dans ce que présente Raon, il y a ceux avec qui ça marchait et ceux avec qui ça ne marchait pas spécialement, mais quand ça marchait, eh bien, c'est sûr qu'on en tirait cette impression que, eh bien, il y a quelque chose à faire. Alors, le problème étant, comme je l'ai dit, qu'en pratique, les relations, enfin, il y a beaucoup de raccourcis. Et ça correspond à une façon un peu datée d'envisager le rapport au savoir chez les préhistoriques. Mais si on met ça de côté et qu'on le présente uniquement justement comme une aventure de la science, ben ça fonctionne assez bien. Mais alors, avec cette précision, je le redis, hein, pour les personnes qui chercheraient enfin qui se diraient qu'ils ont envie de l'offrir à tel ou tel enfant. Attention, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les récits de Raon. C'est quelque chose qui, en gros, il faut que ce soit plutôt les 10 premières années, enfin même pas les 8-9 premières années de Raon, parce qu'après, enfin voilà, c'est plutôt des aventures de voilà, Raon qui survit à différents dangers, Raon qui tombe amoureux, enfin voilà, toutes sortes de choses. Il grandit un peu, quoi. Y a-t-il d'autres questions ? Une ici ? Merci. Non, c'est mieux pour l'enregistrement. Merci.
Ça marche ?
Oui.
Pour rebondir un petit peu sur l'histoire du Kutla, où Raon, malgré tous les épisodes, il fait toujours son histoire du Kutla qui tourne. Après, peut-être que c'est une surinterprétation, mais je me pose la question parce que souvent, la science peut marcher par le hasard, par les innovations peuvent se faire par le hasard. Genre, une personne qui fait des accidents de laboratoire où il y a déjà eu des inventions comme ça, parce que en cherchant quelque chose, il finit par chercher autre chose, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée un peu de laisser place un petit peu au hasard pour dans cette idée-là.
Alors, disons, là où je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est que pour compléter effectivement la réponse de tout à l'heure, c'est que dans le cheminement rationnel de Raon, le hasard a souvent une grande part. On l'a vu, c'est l'observation de la nature. C'est pas une observation contrôlée de type si j'ai besoin de telle application pratique, je vais aller faire un examen de telle ou telle chose. Il crée pas des microscopes, il fait pas un laboratoire. Il est dans un grand laboratoire de la nature. Et donc ce rapport au hasard, effectivement, il est très présent. Donc je crois que, enfin, de ce point de vue-là, l'usage du hasard dans les déplacements n'apparaît pas comme une rupture fondamentale, une incohérence totale du personnage. Effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler cette importance-là, avec tout de même, enfin, un effet du coup de la part de la construction des récits, qui est que un des grands enjeux pour le scénariste, pour l'écureux, c'est d'arriver à construire un récit qui soit pas prévisible à proprement parler, donc c'est quand même, de ce point de vue-là, il y a un refus de la formule, hein, il faut bien le préciser, il y a vraiment une originalité de chaque récit, ou presque, avec des répétitions, c'est inévitable, et cette originalité, elle est articulée, elle implique qu'il faille nécessiter à neuf, justifier à neuf, chaque nouvelle occurrence d'une invention. Et donc, ici, le hasard est très pratique d'un point de vue narratif. Puisque voilà, ça permet de donner. Vous voyez que dans certains cas, ce hasard est un peu arrangé. Hein. Enfin, bon, le ficus à côté de l'eau bouillante, la lance magique juste à côté du tyrannosaure. Bon, il y a des effets de proximité qui sont qui font des raccourcis. Mais ce n'est pas. Vous voulez.
Je vais rajouter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne sais pas, j'en sais rien parce qu'après c'est. Il n'y a pas un peu une sorte de, comme c'est retour à la préhistoire, donc des logiques païennes qui ont plutôt une vision cyclique de l'histoire, donc un côté qui est un cycle, etc., avec pas cette notion un petit peu linéaire, je dirais, judéo-chrétienne, avec le côté, on va d'une aventure à une autre, on progresse de plus en plus dans un truc.
Non, pas du tout. Alors, mais c'est intéressant que vous mentionniez la chose, tout à fait, hein, c'est-à-dire le caractère cyclique, il est vraiment lié à la logique de la série, de la déconnexion, c'est-à-dire le fait qu'il faut pouvoir suivre une histoire de Raon sans avoir eu l'histoire précédente. Et de ce point de vue-là, s'il ne cessait d'utiliser un répertoire d'inventions précédentes, au bout d'un moment, ça serait une espèce de collection de réédition et de reprise, justement, ce qui allait complètement contre la logique de l'écureux, de toute façon, dans cette invention de Raon. Mais par rapport à ça, justement, nous ne sommes pas du tout confrontés à une représentation réaliste ou vériste de la préhistoire et des rapports de la préhistoire à la science. Il y a vraiment cette spécificité de Raon. Le jour où Raon meurt, la science telle qu'elle s'organise autour de Raon disparaît du monde préhistorique. Donc il y a vraiment. Et donc Raon est, de ce point de vue-là, c'est quand même un échec de Raon. C'est-à-dire que Raon transmet des connaissances, mais il ne transmet pas sa méthode. Il n'a pas d'héritier à proprement parler. Enfin, il y a un fils de Raon, mais ce fils de Raon, il a plutôt des aventures. qu'il n'est pas très inventeur, ce fils de Rahan. Son nom m'échappe, je crois que c'est Tarao, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, le moment où le fils de Rahan est inventé, et où les histoires que l'écureux fait sur ses aventures du fils de Rahan, ça correspond à peu près à l'époque où il transforme Rahan lui-même, où Rahan se met à avoir des aventures plutôt que des inventions. Et donc Rahan est un apax. C'est quelque chose d'unique dans l'environnement qui est le sien. Et cet apax, il, comme je l'ai dit au tout début, il correspond à une histoire secrète. Et en un sens, le but n'est absolument pas de dire, un petit peu sur le modèle de Maui, vous voyez la logique de la figure mythologique qui a tout inventé, qui a permis d'amorter telle chose. Et comme il y en a dans toutes sortes de mythologies, l'idée qu'on trouve en une personne, une figure, la personne qui a apporté telle chose, eh bien, Rahan n'est pas celui qui a apporté à l'humanité l'hameçon, le fil à aiguille, l'électricité. Enfin, c'est celui qui, dans un cadre extrêmement plastique, qui est celui de la préhistoire, celui qui a manifesté que c'était une possibilité, que ça faisait partie du potentiel humain. Il manifeste ce potentiel humain, mais il ne l'inscrit pas dans un fil linéaire qui serait celui de « et bien sûr, c'est là que tout a commencé ». Voilà. Donc ça, c'est assez particulier parce que du coup, ça crée un effet... les conséquences de Rahan ne sont pas des conséquences historicisées. Ça a un effet sur les gens qui le lisent. Ça inspire. Et d'une certaine façon, je disais qu'il a transmis à personne, c'est faux. Il a transmis, par exemple, à vous. Il a transmis aux lecteurs et aux lectrices qui se sont appropriés cette logique-là. Mais cette appropriation, ce transfert, c'est un transfert vis-à-vis des lecteurs, de ceux qui perçoivent Rahan véritablement, et c'est absolument pas un transfert intradiégétique. Et ça, c'est quand même assez, là aussi assez remarquable. Il y a aussi une certaine humilité de la part de l'écureux qui ne pose pas dans ce personnage une sorte de factotum, de héros parfait. C'est un individu qui s'adresse avant tout aux lecteurs et aux lectrices pour poser une certaine valeur et un certain rapport à la science. Il y a encore une question. On a combien de temps? Oui, ça va, on a le temps.
Est-ce qu'il y a dans le parcours du scénariste une explication? Parce que personnellement, je n'associerais pas l'eau chaude et la sève d'un arbre pour penser à faire un élastique et une fronde. Donc, est-ce que dans...
Là, j'aurais du mal à l'identifier. Pour autant que je puisse voir la logique, enfin, le parcours de Roger Lécuré, plutôt celui d'un autodidacte, hein, ce n'est pas un historien des sciences, et ce qu'il représente, ça n'est pas, c'est pas des conceptions très, très élevées de la science. Enfin, voilà, le but étant de poser simplement des principes mécaniques. Il me semble que dans le cas précis de ceci, si je faisais, là c'est un pur fantasme, hein, mais si je faisais une reconstitution, je pense que la logique, c'est une logique inverse. De la même façon que pour beaucoup des histoires. C'est-à-dire, un petit peu d'ailleurs, je parlais de Sherlock Holmes, un petit peu comme sur le principe de l'intrigue policière. Avant de poser Hercule Poirot ou Sherlock Holmes résolvant le meurtre de ceci ou cela, bah, il faut avoir posé le meurtre, la façon dont il va être brouillé, ainsi de suite. Là, de la même façon, la situation, c'est une grotte avec des lions qu'on n'a pas le droit de tuer. Comment est-ce que Rahan va faire pour faire ça, ce défi-là? Une cage. Comment est-ce qu'il peut avoir l'idée de la cage? Le hérisson. Il se dit, à un moment donné, pourquoi pas l'élastique? Qu'est-ce que je vais faire autour de l'élastique? S'il va utiliser l'élastique, ça sert à quoi? Un lance-pierre. Comment est-ce qu'il peut l'observer? Où est-ce qu'on l'observe? Donc je pense que c'est plutôt des logiques scénaristiques, mais j'avoue, là, je n'ai pas, j'ai pas de témoignage particulier. Et il n'y a pas, à ma connaissance, il n'a pas fait de déclaration sur sa propre méthode. Dans les entretiens que j'ai pu lire, il mentionne des choses sur les valeurs de Rahan, il mentionne des choses sur la logique qui est la sienne, cette invention perpétuelle, l'idée de... Mais il ne dit pas, voilà comment je fais, dans ce que j'ai trouvé en tout cas. Mais il me semble que c'est des choses, en tout cas, qui sont construites à rebours, hein, comme un peu comme une énigme. C'est ce qui explique, vous voyez, vous souvenez, le principe de la vessie de porc. voilà, il veut le faire aller profondément dans l'eau. Comment est-ce qu'il va faire? Bah, en transportant sa réserve d'air. Comment est-ce qu'il peut transporter sa réserve d'air? Et ainsi de suite. Et ensuite, c'est le travail du scénariste et du dessinateur que de justifier par le dessin, visuellement et narrativement, la façon dont petit à petit l'Eureka va se produire. Voilà. Bien. Je pense qu'on va arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne suite de festivals.